On la voit dans notre téléviseur, on l'entend vulgariser et raconter en quelque sorte les pires horreurs depuis 25 ans. Et c'est un livre aux éditions La Presse qui est offert de la journaliste Isabelle Richer, ce que je n'ai jamais raconté 25 ans au Palais de justice. Elle est avec nous pour nous en parler. Bonjour Isabelle.
Bonjour Alex.
Merci de prendre le temps de nous parler ce matin. Moi je me disais, donc on le voit, 25 ans au Palais de justice dans le titre de votre livre, pourquoi avoir raconté tout ça maintenant et ne pas l'avoir fait avant?
Bien, pour deux raisons. D'abord, les faits que je raconte dans le livre, ce sont des choses qui me sont arrivées. Et quand on fait du reportage judiciaire, c'est pas de nous dont on parle, hein? Alors, on parle des procès qu'on suit, on parle des gens qu'on entend au palais, on parle du malheur, des drames et de l'issue des procès, mais c'est pas le temps de se mettre en scène et de raconter combien c'est donc difficile d'entendre ceci ou cela, ou de faire état de nos réflexions sur ce qui se passe devant nous. Alors, j'ai l'impression qu'il faut que ça se dépose avant qu'on en tire des conclusions, avant qu'on réfléchisse aussi, avant qu'on réussisse à prendre du recul. Alors, c'est ça que j'ai fait. Et évidemment, tu as lu le livre, je pense. Tu peux constater que la plupart des histoires que je raconte, ce sont des histoires que j'ai suivies au début de ma carrière.
Oui, du passé, là.
Dans les années 90, bien souvent. Donc, j'étais une jeune journaliste, j'avais peu d'expérience encore au palais, et c'est sûr que ce sont ces affaires-là qui m'ont le plus secouée. Alors, évidemment, la première fois que j'ai couvert un procès de meurtre d'enfant ou la première fois que j'ai couvert une agression sexuelle féroce, ben ça m'a bouleversée.
Oui.
Ça se comprend. Ça me bouleverse encore. Évidemment, je suis pas un monstre, mais on se fait un peu une carapace.
Carapace, oui. Mais est-ce que, justement, puis tu l'évoques dans le livre, c'est dans les premiers moments de ce livre-là, est-ce que l'exercice d'écriture t'a apaisé, t'a libéré de ces images-là, de ces histoires-là?
Ben, enfin, on verra à long terme, mais c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais absolument sortir ça de mon système, c'est-à-dire que ça m'habite. Évidemment, je pense pas à ça tous les jours, là. Je suis pas complètement névrosée.
Non, oui.
J'ai pas besoin d'une thérapie. Mais c'est sûr que c'est là, ça s'est déposé en moi depuis plus que 30 ans. Alors, je voulais m'en libérer, faire un peu de place dans mon disque dur pour éventuellement écrire autre chose ou penser à autre chose. J'aimerais ça peut-être faire de la fiction. Alors, si je me débarrasse de toutes mes histoires réelles, ben, peut-être qu'il y aura un petit bout de mon disque dur qui sera disponible pour accueillir autre chose. Alors oui, jusqu'à un certain point, ça m'a libérée, ne serait-ce que par l'exercice d'écrire, parce que
c'est libérateur.
Ça demande beaucoup d'investissement, puis ça demande de la concentration. Alors j'ai fait ça. Je suis bien contente, puis on verra ce que ça donne dans le futur.
Puis tu sais, parmi ces histoires-là, je sais qu'on est à 7h46, CGSO 107, les gens partent vers le boulot, il y a peut-être des jeunes aussi à l'écoute, mais tu sais, il faut quand même relater quelques-unes de ces histoires, dont celles qui, moi, ben tu sais, il y en a plein qui m'ont bouleversé, c'est sûr, mais Benoît Groulx, qui a tenté de décapiter sa femme, qui a fait croire à sa disparition pendant quelques années, puis... Bon, et de ce genre de bourreau-là, ce genre d'homme-là, de personne-là, criminel... J'ai comme trouvé que vous avez voulu aussi évoquer l'aspect humain derrière ces derniers, tu sais, de ressentir une sorte de, est-ce que je peux dire de pitié ou peut-être?
Absolument.
Ouais?
Oui, ben, je suis contente que tu soulignes ça, Alex, parce que c'est ce que j'ai voulu faire ressortir. Mon livre, c'est pas un livre qui contient plein de détails macabres et sanguinolents. Alors, si c'est ça qu'on cherche, ben oui, il y en a évidemment parce que ce sont des meurtres que je rapporte. Mais c'est pas là-dessus que je me concentre. Le palais de justice, c'est un condensé de l'humanité et c'est un condensé de l'humanité noire et sombre et obscure. Alors, ça, c'est ce qui m'a frappé et c'est ce qui frappe tout le monde qui vit là. Mais c'est autre chose. Alors, évidemment, il y a les accusés qui font des choses abominables et on est bouleversé quand on les entend. Mais ces accusés-là, ils ont une histoire aussi. Et c'est ça qui finit par nous frapper après tant d'années de couverture judiciaire. C'est que ces gens-là, ils sont pas spontanément cruels et méchants, là.
Oui.
Ils deviennent.
Ils deviennent.
Oui. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on remarque et qu'on finit par... En fait, c'est vrai que c'est de la pitié, beaucoup. Je sais que ça passe pas bien d'avoir pitié de tel ou tel accusé, d'avoir même de l'empathie. Ça, les gens veulent pas entendre ça, n'aiment pas ça. Pour eux, ce sont les monstres qui ont tué telle ou telle personne. C'est vrai, mais ça n'enlève pas l'horreur de leur crime d'avoir pitié d'eux. Quand on connaît leur histoire, je connais pas l'histoire de chacun des criminels que j'ai couverts, mais quand on connaît leur histoire, je pense que leur parcours est à peu près impossible à... Il est impossible d'en dévier. On se dit, avec une vie comme ça, qu'est-ce que tu voulais qu'ils deviennent?
C'est ça, c'est sûr.
C'est ça que je voulais faire ressortir, c'est-à-dire que c'est pas juste des gens méchants qui font du mal par plaisir. Mm. Ce sont des gens qui ont une histoire atroce.
Puis ça évoque aussi... Puis là, c'est sûr qu'on peut réfléchir plus loin, mais ça évoque aussi les failles de notre système. Ça évoque aussi des réflexions, des questionnements, savoir qu'est-ce qu'on choisit de faire avec les gens qui sont peut-être plus abîmés, qui n'ont pas le même sort que nous, qui n'ont pas la cellule familiale protectrice et qui ont pu grandir dans un milieu quand même qui est sain également aussi.
Oui, absolument. Puis ça, comme je ne suis pas ni une criminologue, ni une sociologue, ni une psychologue, j'ai pas voulu faire un essai criminologique en disant, mon Dieu, comment peut-on prendre soin des gens qui sont abandonnés? C'est pas mon sort et je l'ignore. Mm. Mais ce que je voulais montrer, c'est effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Puis oui, on dit toujours qu'on est égaux, mais on est égaux si on est placé dans le même milieu puis avec le même environnement.
Ouais.
Dans la vraie vie, c'est pas ça.
Non.
Alors, ça aussi, il faut en prendre conscience et il faut le soupeser. Et malgré tout, là-dedans, il y a des fois une petite lueur d'espoir, parce que sinon, ben, je veux dire, on s'ouvrirait les veines toute la gang.
Oui.
Alors, il y a quand même un peu de lumière au bout de ça, et ça fait du bien au moral.
Mmh. Et je termine avec ça, Isabelle Richer, on parle avec la journaliste toujours, autrice de Ce que je n'ai jamais raconté 25 ans au Palais de justice, mais qu'est-ce qui pourrait, un coup libéré de ces histoires-là, est-ce qu'on écrirait dans un tout autre domaine littéraire, une histoire, par exemple?
Bien, on verra bien si l'inspiration jaillit, mais c'est un peu le rêve que je caresse depuis tout le temps, parce que j'ai fait un peu mes études en littérature. Alors, c'est sûr que je voudrais créer la grande œuvre formidable. J'avais l'impression que toutes mes histoires d'horreur m'encombraient le cerveau. Je m'en suis débarrassée,
oui,
en partie. On verra bien qu'est-ce qui surgit de tout ça. Puis si j'arrive pas à écrire de la fiction, ben écoute, je continuerai à pédaler puis à faire du fond, puis je vais être heureuse.
Ben merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, Isabelle Richer, ça a été un plaisir.
Ça me fait plaisir.